I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On your mark.
Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo, une journée marquée par le titre de Carsten Warholm et le record du monde pulvérisé sur 400 mètres haies, 45-94. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Maxime Dupuis et Laurent Vergne sont à mes côtés avec un invité de marque. Aujourd'hui, Stéphane Caristan. Salut les gars.
Bonsoir. Salut.
Nous débuterons avec l'événement du jour, ce record du monde battu de 76 centièmes. Nous enchaînerons avec la finale de la perche et l'avènement attendu de Mundo Duplantis. Mais surtout, ce qui nous a marqué, c'est cette souffrance de Renaud Lavillenie qui a lourdement chuté avant le début de la finale. Dans Retour Tokyo, on reçoit Enzo Lefort, champion olympique au fleuret par équipe. Et l'affiche de mercredi, c'est le décathlon, évidemment, avec l'entrée en lice dans la nuit de Kevin Mayer. L'heure olympique, c'est parti. C'est l'événement du jour, le titre olympique de Carsten Warholm sur 400 mètres haies, surtout ce record du monde en 45-94 sous la barre des 46 secondes. Pour mettre en perspective ce chrono, il faut se rappeler que le précédent record, c'était 46-70. La question qui fâche avec tout ça, la technologie dénature-t-elle l'athlétisme? On va en parler avec notre consultant spécialiste en athlétisme, évidemment, Stéphane Caristan. Alors cette question qui fâche, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, on a beaucoup parlé des pointes, on a beaucoup parlé du tartan qui allait vite, est-ce que ça dénature pas un petit peu ce record, Stéphane ?
Non, enfin, ce qui est surprenant, c'est que dans cette course, il y a tous les athlètes quasiment ont fait une course incroyable, hein, en battant leur record, vous l'avez dit, de 76 centièmes pour le record du monde, ce qui est juste phénoménal, parce qu'on bat un record du monde normalement sur une distance longue, demi-fond, mais pas sur du sprint, donc ça montre la dimension. Le record est daté de 29 ans, et aujourd'hui, Kevin Young, il se retrouve quatrième tout temps, quoi. C'est juste invraisemblable. Alors, la technologie des natures, je vais dire non, et en même temps, je dis oui, parce que ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que la technologie nous fait gagner plusieurs années en très, très peu de temps. D'habitude, le temps fait qu'on s'habitue. L'arrivée du tartan, ça a permis, et tout le monde en bénéficiait, ça a permis un progrès sur les records. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'on gagne 10, 15, voire 45 ans sur le 400 mètres haies en une fraction de seconde. Donc, c'est là que c'est surprenant et ça nous fait perdre nos repères habituels.
Bon, bah oui, Maxime, vous avez aussi été étonné par ce record, ça vous a...
Ah bah, oui, honnêtement...
Par le record, pas forcément, ouais. Mais...
On pouvait imaginer qu'il y a un record du monde. C'était un peu, il y avait tout qui était réuni. Finale des Jeux Olympiques, deux athlètes d'un niveau, on va dire, équivalent ou pas loin. On se doutait qu'il y aurait une bagarre et c'est très propice quand même à ce genre de choses. Maintenant, ce qui est étonnant, voilà, c'est qu'on part des fois des barres mythiques dans le sport, les 6 mètres, les 9 mètres en saut, en longueur. Bah, 46, c'était même pas une barre, je pense, au 400 haies. Enfin, voilà, c'est presque, on est au-delà de ce qu'on peut imaginer sur les limites humaines. Moi, j'ai écouté Stéphane ce matin, je sentais... abasourdi par ce qu'il venait de voir, et même on est à la limite à se demander s'il n'y a pas une erreur de chronomètre, parce que 45-94, c'est complètement hallucinant. Je pense qu'il rajoute, comment dire, de la confusion dans ce record et le côté technologique, c'est qu'en plus on sort de deux années entre guillemets Covid, où tout s'est arrêté, et on a l'impression que les gens reviennent, les athlètes reviennent, et en claquant des doigts, ils tapent des records comme ça. Donc je pense que ça ajoute à la confusion, parce qu'on n'a pas le temps de s'habituer à une évolution. On les voit revenir et d'un seul coup, alors avec la suspicion qui va avec forcément, puisqu'on se dit, bah, les gars, pendant un an, on ne vous a pas vu, vous revenez, vous tapez des records. Mais là, je pense quand même qu'on a vraiment toutes les conditions, plus évidemment les fameuses chaussures. Alors, Warhol m'a parlé de ses chaussures, il a expliqué que c'était très sympa d'ailleurs, parce qu'il accepte la technologie, mais il ne veut pas que ça aille trop loin. Il dit, en gros, je veux que mes records restent un peu crédibles et garder la nature de l'athlétisme. Mais là, je pense que la limite, elle est très ténue, parce que ce qui est valable pour lui ne sera pas valable pour un autre. Donc, on est entre les deux. De toute façon, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas aller contre l'évolution de la technologie. Là, ce qui est vrai, c'est que ça a été complètement délirant. Il y avait tout dans cette course-là pour battre un record, mais à ce point-là, c'est complètement fou.
L'évolution... Oui, vas-y, Stéphane. Vas-y.
Juste pour relativiser les choses, Laurent, il semble que Warholm avait des chaussures, pas de la nouvelle génération, il avait une plaque en carbone, mais pas avec la semelle en mousse dont on parle associée à la semelle de carbone. Donc lui, il était quand même sur, apparemment sur un ancien modèle. C'est à confirmer, mais il y a une grande tendance pour que ce soit le cas.
Mais c'est ce qu'il a dit. Hein. C'est ce qu'il a dit, mais en même temps, il a expliqué qu'avec Puma, ils avaient bossé avec l'écurie de Mercedes, de F1. Pour, donc vous voyez qu'on part vraiment dans des choses très, très pointues au niveau de l'aérodynamique et de la vitesse.
L'évolution de la technologie, moi, elle ne me dérange pas. Pas plus en athlète qu'elle me dérange avec l'évolution du matériel en tennis ou dans d'autres sports. En revanche, je pense que quand c'est très brutal, que ça fait franchir ce que Stéphane disait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'habituer et on gagne en l'espace de quelques mois, une décennie ou deux décennies. Et je pense que l'athlétisme doit faire attention à ne pas vivre ce qu'a vécu la natation dans les années 2000, où on avait vu avec l'apparition des combinaisons la perte de sens quasiment d'une performance. Alors, pas de la performance d'un athlète à l'autre, mais en revanche, on voyait, je me souviens, on a vu des séries où 3-4 nageurs battaient le record du monde et il y avait, dans un championnat du monde ou dans des jeux, on a connu des records qui tombaient quasiment par dizaines. Donc là, ça n'avait la notion de record du monde, elle doit quand même avoir quelque chose de mythique. Un record, il peut être battu au bout de 15 jours ou il peut être battu au bout de 30 ans. Mais si on commence à avoir des records du monde, ce n'est pas encore le cas, hein, parce qu'on a des performances exceptionnelles, mais on voit quand même que même des records comme ceux de Florence Griffith-Joyner, aujourd'hui, on s'en est approché, mais mine de rien, ils ont plus de 30 ans et ils tiennent encore. Mais si l'athlétisme devait, dans les, je sais pas, 5 ou 10 ans, être soumis à ce que la nata avait connu il y a une quinzaine d'années, la natation a fini par faire complètement marche arrière en disant maintenant, on arrête les combinaisons parce que les performances n'ont presque plus de sens. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète un petit peu et qu'on perd tous nos repères par rapport à ce qu'est la valeur d'une performance chronométrique.
Je pense que les repères, on les a déjà pas mal perdus. Et le problème, c'est qu'on ne pourra pas faire machine arrière comme la natation l'a fait parce que, avec tout le respect que je peux avoir pour la natation, les combinaisons, c'était resté quand même assez confidentiel à des athlètes de haut niveau, alors que là, on est dans un domaine de commercialisation où tous les gens qui courent ont accès et achètent ces nouveaux modèles. Et aujourd'hui, on parle de milliards de dollars en termes d'économie, en termes économiques sur ce marché de chaussures. Et je pense qu'il sera juste impossible de faire marche arrière et d'interdire les gens, en tout cas les athlètes de haut niveau, de courir avec ces nouveaux produits.
Mais tu ne penses pas que si on avait vraiment des records qui tombaient, prenons un exemple extrême, dans 10 ans, on a une série du 100 mètres, tu as 4 mecs qui courent en dessous du record du monde et que les performances seraient tellement banalisées que World Athletics ne prendrait pas la décision de se dire bon, voilà, là, ça allait trop loin, les temps, les performances n'ont plus de sens et de mettre vraiment un stop, de mettre un holà.
Je ne suis pas convaincu encore une fois parce que même si en natation ils l'ont fait, ils ont mis du temps à battre certains records. Là, si on va dans ce chemin-là, et c'est l'exemple que je prenais, c'est qu'un jour on va voir dans pas trop longtemps Usain Bolt peut-être sortir du top 5 tout temps, alors que ça reste quelqu'un d'exceptionnel comme l'a été Kevin Young. Et aujourd'hui, il est relégué à la 4e place tout temps, ou même 5e. En termes de chrono. Donc, et à un moment donné, l'I2AF a envisagé de supprimer les anciens records des années 80, dans les lancers en particulier, et ils vont se confronter aux fédérations, aux athlètes qui, eux, ont lancé propre, et pourquoi on enlève nos records, etc. Donc là, d'ici 5 ou 10 ans, si on en arrive à ce niveau-là, je pense que Sébastien Coe se frottera les mains parce qu'on ne parlera que de l'athlétisme, et quelque part, quand il veut changer un petit peu l'athlétisme, avec notamment la règle dans les sauts, où on prend après les 5 essais, on prend les 3 premiers, on leur fait faire un essai et on fait un classement. Pour moi, ça, c'est dénaturer totalement l'athlétisme parce qu'on ne privilégie plus la performance, on privilégie juste sur un essai.
Là, tu dénatures la compétition même, carrément.
Ouais. Exactement, Laurent.
Et là, je pense que là, il va falloir qu'ils trouvent une manière de contrôler. Alors, je parlais de la F1, finalement, ça se prête bien parce que la F1, c'était la course à l'échalote et le but tous les ans, enfin, pas forcément cette année, mais c'est de un peu ralentir les voitures. de trouver. Alors, il y a des ingénieurs qui travaillent très bien, qui trouvent toujours une solution pour aller plus vite. Mais peut-être que World Athletics doit être très, 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 très clair sur ce que doit être une chaussure d'athlétisme, de sprint, etc., de saut, pour justement éviter de partir dans tous les sens. Parce que sinon, là, on partira n'importe où. Et je suis d'accord avec Laurent, à un moment, ce qui fait la valeur d'un record du monde, ce qui fait la valeur de ce qu'on a vu ce matin, c'est la rareté. Si on perd la rareté, on perd tout. Et si, même si on est dans une époque où il faut célébrer n'importe quel record, n'importe quelle perf, bah, il faut quand même garder ça parce que finalement, c'est l'athlétisme qui perdra parce qu'on banalisera tout. Et ce moment d'éternité qu'on a vécu ce matin, parce que même si la technologie, ceci, cela, oui, c'était quand même un moment d'éternité.
On n'en est pas encore là, quand même. On, ouais, on en est encore à se dire waouh, en voyant ça. Le jour où on dira ah, là, je
on est un peu entre les deux quand même, non ? On est quand même un peu entre les deux. Ah, je pas s'empêcher à l'arrivée de se dire oh, c'est presque trop. Mais c'est vrai que si on met ça à côté, si on enlève le chrono, si on regarde juste la course, c'était fantastique. Oui. Parce que Ray Benjamin qui est presque à le tenir titiller Warholm.
Ah, mais ça, ça n'empêchera ça, jamais de prendre du plaisir. Si on reprend l'exemple de la natation, on prenait énormément de plaisir à suivre toutes les courses. Et ça, c'était pas un problème. En revanche, effectivement, quand on te dit toutes les 10 minutes un record du monde vient de tomber. Non. Ça n'a plus de sens pour moi.
En plus, le plaisir, il est aussi dans la bagarre. Moi, un des 100 mètres que j'ai préféré, c'est la finale de Paris 2003. Voilà, c'est 10-07, Kim Collins, ça ne va pas très vite, mais j'avais trouvé ça formidable. Voilà. Le plaisir, il est ailleurs. Après, ce record du monde de ce matin, on peut l'expliquer assez rationnellement aussi. Encore une fois, c'est une finale olympique, c'est une piste qui va vite et c'est deux athlètes d'exception. Voilà. Et en plus de technologie. Donc, il y a aussi ça derrière. Ce qui va devenir inquiétant, c'est, je crois que c'est Laurent qui disait ça tout à l'heure, c'est si on se retrouve dans une série du 100 mètres avec quatre types qui courent plus vite que Bolt. Là, ça deviendra gênant. Là, on est encore dans un côté exceptionnel. Il faut justement que ça le reste.
Des pointes et on revient aux bases.
Oui, mais la force aussi de cette course, c'est que Warholm, il a servi de lièvre de luxe à tout le monde parce que maintenant, on sait comment il court, on sait qu'il part vite. Benjamin avait refusé la confrontation à Monaco, il ne se sentait pas prêt et moi, j'ai vraiment pensé qu'il allait faire un gros cycle de travail parce que les sélections américaines, il avait été impressionné par son temps et impressionnant par son temps. 46-83, il ne pensait pas être si près du record du monde. Il était presque frustré parce qu'il sait qu'il avait beaucoup travaillé et échoué si près. Donc ça lui avait mis un coup. 4 jours après, il y a le record de Warholm en 46-70. Donc là, je pense qu'il s'est retroussé les manches. Il était prêt. On avait expliqué qu'il fallait qu'il fasse le moins d'écart possible à la cinquième, pas la seconde, comme on l'avait pu voir sur les deux meilleures courses, sur leurs deux meilleures courses. Il y avait une seconde d'écart à la cinq. On a bien vu qu'il a limité cet écart. Il est même revenu après la 9. On a cru qu'il allait le passer après la 10. Et Warholm, il a mis un coup de gaz venu de nulle part. Il avait tout le pays dans sa combinaison. Et les guerriers norvégiens, ils ont été rouleau compresseur dans cette course. Et
si on lui avait dit « tu vas courir en 46-17, mais tu auras seulement l'argent », je pense qu'il n'y aurait pas cru.
Oui, et si on avait dit au quatrième qu'en 47-08, il ne serait pas sur le podium, je pense qu'il aurait rigolé aussi.
Il aurait peut-être, il aurait peut-être eu encore plus mal.
C'est vrai.
Bon, je pense qu'on a tout dit sur cette superbe course. On va passer à un autre concours, le concours de la perche. Deuxième partie de l'Euro Olympique avec la finale de la perche. Il s'en est passé des choses dans l'ordre. La chute de Renaud Lavillenie lors d'un saut d'entraînement juste avant le début de la finale. Du coup, le Français qui a sauté diminué. Le titre pour Mundo Duplantis. Ses 3 tentatives de record du monde à 6-19. Waouh, j'ai envie de dire, on avait eu un concours de la perche à Rio qui avait été époustouflant. Là, ça a été un peu différent, mais il y a eu des rebondissements aussi, Stéphane.
Oui, il y a eu un peu de dramatique et Renaud y a contribué. Déjà, avec son entorse à 3 semaines des Jeux, on disait que c'était très compliqué. Il avait fait le forçat et le forcing avec des soins quasiment quotidiens pour essayer de retrouver un petit peu d'allant. Il a montré en qualification... il s'est battu pour réussir à passer outre la douleur. Et là, il y a la gestion de la douleur mentale qui est pas anodine dans sa performance. Et aujourd'hui, à l'échauffement, il fait un saut. Alors, il s'est un peu oublié à l'impulsion. Il a eu une grosse flexion. Heureusement qu'il connaît ce genre de situation, mais malheureusement, il lâche la perche. Il est 4 mètres au-dessus du sol. Il retombe sur les pieds. Il protège un peu sa cheville gauche. Il suit une talonnade. Ce qu'on n'a peut-être pas vu à un moment donné, c'est qu'il était quasiment en larmes face à son coach, qu'il avait la tête baissée, il tournait le dos à la caméra et il était effondré. Donc, quand il a pris la décision de quand même sauter, je connais Philippe Dancos, je voyais dans son regard, il était abasourdi de voir ce que Renaud était capable de faire, de prendre sur lui pour essayer de participer. Et je sais que, comme ça m'est arrivé en 88 à Séoul, quand on est au jeu, qu'on est ambitieux, on peut pas abandonner. C'est juste impossible. Samir Aït Saïd l'a fait à la gym alors qu'il a un muscle pratiquement lésé. Ça passe ou ça casse. Et malheureusement, il n'est pas loin de faire le hold-up parce qu'il a fait un concours à la hooker. Il s'est économisé, il a fait des impasses. Quand il a vu que les adversaires passaient les barres, il s'est dit, il faut que je retarde le plus possible. À 92, première course, malheureusement... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sauté et donc il était un petit peu loin, il n'a pas pu déclencher le saut. Le deuxième essai, il manque pas grand-chose. Et le troisième, il est à bout, il est à bout, il ne peut pas passer.
Ouais, ce que tu disais, Stéphane, vous, je pense que vous ne l'avez pas entendu avec Bertrand, parce que vous commentiez, mais nous, on avait un feed avec du son, mais sans commentaire. Et après, chrono est franchi 5,70 m, on l'a entendu venir parler à Philippe Dancos. Et il disait, moi j'ai cru un petit peu à ce moment-là, parce qu'il dit, bon, de toute façon, j'y vais, j'ai plus le choix. Il dit, ça ne s'améliore pas, mais ça n'empire pas. Donc, vu le saut qu'il avait fait à 5,70, j'y croyais un peu. Et là, il a demandé à Philippe Dancos, il dit, combien, y en a combien qui sont passés à 5,70? Et là, Philippe lui dit 10. Et il dit 10, bon, bah ok, comme il sait qu'il a peu de sauts en réserve, hein, il décide de faire l'impasse à 5,80. Et après, effectivement, comme tu dis, ça devient un pari. Et franchement, son premier essai à 5,92, puisqu'il n'avait plus que deux tentatives après avoir raté 5,87, où il avait donc gardé ses deux essais pour 5,92, il est vraiment pas loin. Et ça aurait pu lui valoir une place sur le podium, ce qui aurait été magnifique, parce que même s'il avait fait bronze, faire or, argent, bronze, trois Olympiades de suite, ça aurait été extraordinaire. Et ce qui est frustrant, c'est par rapport à sa saison et toute cette approche des Jeux avec sa blessure il y a 3 semaines, ce qui s'est passé aujourd'hui, alors qu'en termes de performance, il était revenu vraiment à un niveau exceptionnel. C'était, même pour moi, sincèrement, je n'y aurais pas forcément cru il y a quelques mois. Donc la saison qu'il a fait devait l'amener sur le podium, donc c'est vraiment très, très frustrant.
Ouais, oui, il y avait tout... Pardon, non, vas-y.
Non, Maxime.
Non, j'allais dire oui, il y avait toutes ces promesses-là, et puis c'est le malheur de se blesser à la cheville. Déjà, on le savait, il le dit, déjà on se doute avec une entorse de la cheville qui ne sera pas à 100%, lui, il l'a reconnu, et puis aujourd'hui, cette blessure improbable, le talon droit, il compense en retombant, donc en gros, il a mal aux deux pieds, ce qui n'est pas évident pour sauter. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est que... Bah, c'est l'esprit olympique. Voilà. Ce que j'ai aimé avec Renaud aujourd'hui, c'est que on n'abandonne pas, voilà, on essaye. Et justement, la perche prête bien à ce genre de choses, puisqu'on peut jouer très tactiquement, faire des impasses et essayer de passer. J'ai un petit peu cru quand je me suis dit, bon, il passe 5,70, ça veut dire que ça y va, ça peut le faire. Il y a eu évidemment les autres sauts derrière. Ça aurait été fantastique, ça aurait été un exploit monumental et ça aurait été chouette parce qu'encore une fois, ça aurait fait 3 médailles sur 3 Jeux olympiques, 3 éditions, ça aurait été grandiose. Puis ça aurait eu un drôle de goût parce qu'il a tout connu. Il y a le concours de Londres, il est médaillé d'or. Il y a le concours incroyable de Rio où ça termine par un crève-cœur alors qu'il est parfait sur le concours. Et puis là, aujourd'hui, ça aurait eu un autre goût. Voilà, malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est l'esprit de dire, voilà, aujourd'hui, c'est les Jeux, il faut aller au bout. Pourtant, on pourrait dire, il avait déjà 2 médailles. Non, il faut aller au bout et c'est ce que je retiendrai. Je trouve ça assez formidable.
Puis dans l'esprit des Jeux, on a vu aussi cette belle accolade hein, à la fin quand il va voir Mondo Duplantis qui était voilà, le favori numéro 1 et qui était voilà, il avait peu de concurrence quand on le voit aujourd'hui sauter. C'est aussi ça, là, on en parlait hier dans le podcast, la confrérie de la perche. Où, voilà,
oui, c'est ce que j'allais dire, famille. C'est l'esprit olympique, c'est aussi l'esprit de la perche, je pense.
C'est ça.
Et oui, il y a eu l'accolade entre Renaud et Armand Duplantis quand Duplantis a été assuré de l'or. Et puis, quand il a tenté ce record du monde, on a vu... tous les autres qui avaient fini leur concours, qui étaient là, qui tapaient dans les mains comme de simples spectateurs presque. Ça, c'était quand même très, très chouette aussi. Et je pense même que s'il avait battu ce record du monde, ils seraient peut-être tous venus le rejoindre sur le sautoir pour le porter. Enfin, je pense qu'on aurait vu une image comme ça qui, au-delà de la performance, aurait pu être vraiment, vraiment mémorable. Et c'est un des regrets que j'ai par rapport au fait que Duplantis n'ait pas battu le record.
D'ailleurs, Stéphane, on peut parler du premier saut à 6,19.
Oui, effectivement, là, on peut en parler parce que c'est quasiment un saut parfait. Hein. Il tutoie la barre en descendant et à ces hauteurs-là, encore une fois, quand il fait 6 mètres, il passe toujours avec un wagon à 6,15, 6,20, il y a une marge énorme. Donc, on sait qu'il a cette marge et qu'il a cette facilité de se dégager. Mais quand on est au sommet de la flèche là-haut, il faut vraiment qu'au niveau de la barre, on soit juste pile-poil devant, juste pile-poil au-dessus et en redescendant. Et donc, ça demande quasiment un saut millimétré. Et là, il lui manquait, je ne sais pas, 1 cm. À minima, 2 grands maximum. Donc, il frôle le record du monde et en plus, il l'aurait effacé avec une grande marge. Donc, ça montre combien il est au-dessus du lot. Combien dans ces Jeux Olympiques, il fait partie des quelques athlètes comme Rojas, la vénézuélienne au triple saut, dont on savait qu'ils allaient avoir l'or, et ça, on ne savait pas c'était avec quelle manière ils allaient l'obtenir. Rojas l'a fait avec la manière, il aurait pu le faire également. Moi, ce qui me fascine encore le plus, c'est que dans son concours, et notamment dès le départ, Armand Duplantis, il va voir Renaud pour prendre des nouvelles. Il s'inquiète un petit peu de son état, alors qu'il est, il est quand même en course pour l'or olympique. C'est ses premiers JO. Il est favori et il est ouvert, il est humain. Enfin, c'est un garçon qui a une maturité à 21 ans qui est exceptionnelle, tout simplement.
En regardant le concours, on se disait c'est presque un autre sport, quoi. Il a une telle aisance, il a une telle facilité par rapport aux autres.
Ouais. Il faut regarder la fiche de marque, en fait. C'est immaculé jusqu'à 6-19. Ouais. Je crois qu'il fait une impasse à un moment. Et sinon, il y a 5 sauts, 5 fois au point RSL.
Ouais, il rate rien. Mais ouais. C'est vrai qu'au-delà du niveau de performance, ce qui est bluffant, c'est effectivement sa maturité. Et il est quand même très jeune. C'est les Jeux Olympiques. Il est archi-favori. Donc, il avait quand même pas mal de raisons de... pas forcément de passer au travers, mais d'être en tout cas peut-être tendu. Voilà, et on a vu ça des dizaines de fois. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme l'olympisme. Et lui, on avait l'impression qu'il était dans n'importe quel meeting. Et il était d'une tranquillité absolue. Rien ne semble pouvoir le perturber. Et c'est vrai qu'au-delà du perchiste qu'il est, ça, c'est peut-être le plus impressionnant.
Mais Laurent, quand tu parles de ça, on prend son illustre aîné qui est Sergueï Bubka, qui a cumulé 6 titres de champion du monde et qui était intouchable au championnat du monde et qui aux Jeux Olympiques a été vraiment en très grande difficulté. Ouais. S'il a réussi à choper une fois la médaille d'or, eh bien, il en est très heureux parce que aussi dominant qu'il l'était que l'est Duplantis aujourd'hui, eh bien, au jeu, il avait la pression. Ouais. Alors qu'effectivement, Armand Duplantis, 21 ans, on a l'impression que tout glisse sur lui.
Oui, c'est ça. Exactement.
Incroyable. Un nouveau dieu de l'Olympe, magnifique Armand Duplantis qui décroche sa première médaille d'or olympique. On en a reçu un médaillé olympique aussi qui nous parle d'Olympe, c'est Enzo Lefort. Je vous propose de passer à la partie suivante, retour de Tokyo. Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on reçoit Enzo Lefort, champion olympique au fleuret par équipe. Salut Enzo.
Salut.
Ça fait plaisir de te voir. On est content de continuer notre série de recevoir des champions et médailles olympiques. On t'aurait reçu il y a 5 ans, ça aurait été avec une médaille d'argent autour du cou. Cette fois-ci, c'est avec une médaille d'or. Tu as gravi un échelon et j'imagine que ça te remplit de joie.
Ouais, c'est sûr. La médaille d'argent à Rio, enfin, c'était une médaille olympique. Si un jour on m'avait dit que j'allais être médaille olympique, je pense que je ne l'aurais jamais cru. Donc, j'ai quand même savouré. Mais là, être sur le toit de l'Olympe, c'est un sentiment inexplicable. En fait, je suis toujours pas réalisé. On est quoi, à 48 heures de notre titre. Je crois que je ne réalise toujours pas.
Maxime, Laurent, vous avez suivi le parcours des fleurettistes avec joie, je dois le dire. Laurent, particulièrement. Vas-y, Laurent.
Ouais, Enzo, je voudrais que tu nous parles un peu de cette finale contre les Russes, parce que de l'extérieur, ce qui se dégageait, c'était... un grand sentiment de sérénité, de confiance et j'allais presque dire de certitude sur la piste. Est-ce que tu peux nous parler de votre état d'esprit tout au long de cette journée et particulièrement pendant cette finale ?
En fait, c'est bizarre que tu dis ça, mais c'était vraiment ce qui se dégageait de nous, de la sérénité, dans le sens où on était en chambre d'appel, donc juste avant d'entrer sur la piste. Et là, je dis au gars, mais enfin, c'est bizarre, je suis 10 fois moins stressé pour une finale olympique que ce matin avant le quart de finale, alors que sur le papier on affrontait l'Égypte qui est une équipe qui est beaucoup moins bien classée que nous, mais c'est souvent comme ça en fait. Le premier match, on n'a pas encore tiré, on n'a pas encore de certitude, donc il y a une pression qui est immense. D'ailleurs, j'ai pas très bien tiré sur ce match, et là après la demi-finale, je savais que mon escrime était là, et après juste avant la finale, je me disais ben de toute façon c'est une finale olympique, si tu tires avec ne serait-ce qu'un 1% de retenue, en fait, on ne pourra pas toucher du doigt notre rêve. Donc, en fait, c'est facile. On déconnecte tout et on se met en mode automatique. Et c'est possible grâce à toutes les heures de travail qu'il y a derrière, parce que ce sont ces automatismes qu'on a sur la piste qui nous permettent de débrancher le cerveau et de juste laisser parler le corps.
Et pour parler de toi plus spécifiquement, dans cette finale, t'as été je crois que tu finis à 17-7, je crois, sur tes 3 relais.
Ok.
Et on a vraiment eu le sentiment que tu marchais sur l'eau. Vous avez tous apporté votre pierre à l'édifice, évidemment, mais on t'a senti là vraiment très, très, très solide. Est-ce que tu as eu, toi, cette espèce de, je sais pas, de sentiment de plénitude un peu ou...
Ouais, c'est sûr que avec, enfin, maintenant que vous m'en parlez, oui, c'est sûr que je, il y a des touches que je mettais, je me disais, bon, ok, enfin, ok, c'est comme ça, c'est, en fait, je me voyais parfois trop loin, parfois trop près, puis, en fait, ça se goupillait, en fait, parfois j'ai l'impression de me voir un peu au ralenti, et puis même j'avais une certaine sérénité. D'habitude, je suis pas très à l'aise en défense. Là, vu qu'on était devant tout le temps, j'ai accepté, mais limite en étant à l'aise, quoi, de défendre, alors qu'en face, ils essayaient de m'agresser, quoi. Mais ouais, je savais que de toute façon, si je reculais, ça allait être difficile pour eux de me toucher. Et après, en allant vers l'avant, je me précipitais pas. Ouais, c'était, je sais pas, après, je pense que j'ai puisé cette sérénité aussi dans mes coéquipiers. C'est-à-dire qu'ils me rassuraient, ils m'insufflaient de la confiance. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi, c'est qu'on est un groupe, on se connaît très bien chacun les uns des autres, et on sait nos faiblesses mais aussi nos forces, et on sait comment insuffler de la confiance et comment remettre dans le droit chemin quand ça va pas, etc. Et je pense que c'est, ouais, je pense qu'il y avait ce groupe qui vit bien, qui insuffle cette sérénité, et c'est contagieux.
Tu parles de sérénité, de plénitude. Est-ce qu'on peut profiter d'une finale olympique quand on a pris une avance comme ça et de se dire voilà, on y va tout droit? Est-ce que, ou sinon il y a toujours le sentiment d'urgence qui dit non, faut conclure, voilà, tout simplement?
Il y a quand même ce sentiment d'urgence. En plus, on est des traumatisés. On sort de Rio 2016, on a mené le match sur les Russes en finale tout du long, et on se fait remonter sur l'avant-dernier relais. Donc voilà, on a ce petit traumatisme qui était toujours présent dans la tête. Et quand j'étais à 39, c'est quoi, c'est 39-24, là je me suis dit, ok, c'est ta dernière touche du relais, kiffe. Là, je me suis autorisé à kiffer à ce moment-là. Et Arwan, pareil, il rentre à 40-24. Et là, il se dit, ben ouais, je vais profiter un peu. Et c'est assez rare pour le signaler de gagner un match avec autant d'avance. Donc, ça arrive tellement rarement que ouais, on a pu profiter un petit peu.
Arwan, Enzo, tu avais connu, tu étais là à Londres, tu étais tout jeune.
Ouais.
Où ça s'était très mal passé pour l'équipe de France d'escrime, zéro médaille. Et notamment, je me souviens que vous aviez fini déjà le programme, ce qui n'était pas le cas à Rio, mais vous aviez tiré en dernier le par équipe fleuret chez les garçons. Et il y avait eu des mots, notamment, je sais, Erwan, avec un autre membre de l'équipe de France. On sentait vraiment qu'au-delà des résultats, et d'ailleurs tout était probablement lié, il y avait une ambiance presque délétère dans le groupe. Là, à Tokyo, je parle de vous, les fleurettistes, mais toute l'équipe de France, tous les échos qu'on a eus, tous les témoignages qu'on a eus font état vraiment d'une atmosphère hyper soudée, hyper forte. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et à quel point ça pèse dans le bilan que vous avez eu, ces 5 médailles et ces 2 médailles d'or?
Oui, c'est sûr, on était en mission. On était en mission. Cette équipe de France, elle vit hyper bien. C'est ce que j'aime. On est parti au Japon le 12 juillet. On a fait un stage terminal. On était dans une petite ville qui s'appelle Nishikatsura, au pied du mont Fuji. Et moi, ce que j'aime bien dans ces stages terminaux, c'est qu'en fait, il y a tout le groupe France. En fait, il y a même les remplaçants, les 5e et les 6e, qui étaient là. Et c'est cool parce que, en fait, à l'INSEP, tout au long de la saison, on se croise, mais voilà, on se croise, on se dit bonjour, on papote 10 secondes dans des couloirs, etc. Mais voilà, on est tous pris par nos entraînements, nos vies perso, etc. Là, on est dans un truc, on est à l'hôtel. On peut se retrouver pour faire des jeux de société ensemble, on peut prendre le temps d'échanger un peu plus. Et je trouve que c'est hyper important dans la vie de groupe, et notamment dans une période comme celle-ci avec le contexte sanitaire, où on s'est vraiment recentré sur nous-mêmes. Et moi, je me souviens, je suis arrivé un jour à la salle d'entraînement, c'était peut-être le deuxième, troisième jour du stage. Et j'arrive, et puis là, je vois, il y avait un truc. C'est vraiment, ouais, c'était de la sérénité qui se dégageait de cette équipe. C'est-à-dire que moi, j'allais prendre un tapis pour commencer ma routine. Il y avait Cécilia Berder qui faisait sa routine. Il y avait Yannick Borel qui s'est chauffé pour sa leçon. Il y avait Romain Cannon qui faisait son yoga. Il y avait Isor Atibus qui faisait son strap. Enfin, en fait, cette équipe, par exemple, à Londres, il y avait Isor Atibus, Yannick Borel. Enfin, à Rio, il y avait déjà l'équipe de Sabre Dame, Charlotte Lambach, Cécilia Berder. En fait, je me suis dit, mais cette génération, elle est vraiment arrivée à maturité. En fait, on est arrivé dans un truc où chacun sait ce qu'il a à faire. En fait, c'est c'est pas juste, en fait, c'est pas le sentiment de force, c'est-à-dire que on n'était pas tous ensemble à faire d'un échauffement collectif, etc. Chacun était dans son truc, mais il y avait une espèce de truc qui nous reliait, quoi. Enfin, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il a à faire, comment il doit se préparer, etc. Et en fait, ça moi, j'ai retiré énormément de confiance de voir cette sérénité. Personne n'était là en se demandant, ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, on savait pourquoi on était là.
Et juste, tu as été champion du monde en individuel. Comment tu peux comparer par rapport, en termes d'émotion, pas forcément de performance, mais ce que tu as ressenti quand tu as été champion du monde et ce que tu as ressenti là avec Erwan, avec Julien, avec tout le groupe, ce titre olympique?
C'est l'Olympe. L'Olympe, c'est plus haut que le monde. Voilà, l'olympisme, il y a quelque chose de mystique, c'est tous les 4 ans, il y a la rareté, c'est, et partager ça avec les copains, c'est quand même incroyable. Mon titre de champion du monde individuel, alors je l'ai savouré, hein, mais premièrement, on avait encore une épreuve par équipe, ouais, après, qui était hyper importante pour qualifier l'équipe aux Jeux Olympiques. Ouais. Donc en fait, c'était un peu une stratégie de défense de ma part, mais je ne me suis pas autorisé à me dire tout de suite que j'étais champion du monde. Je me suis dit, si tu dis que tu es champion du monde, tu vas vouloir prouver quoi que ce soit, etc. Je me suis dit, non, tu es juste membre de l'équipe de France qui est avant-dernier. Moi, mon rôle, c'est de mettre Erwan avec des touches d'avance pour qu'il mette les 5 dernières touches. C'est ça, mon rôle. Du coup, je me suis un peu pas autorisé à réaliser que j'étais champion du monde tout de suite parce que l'équipe était hyper importante. Et bon, après, bien sûr, on réalise qu'on est champion du monde. Hein. Bien sûr, ça vient. Mais là, on est la dernière équipe à passer. C'est la dernière compétition de la saison. Ça veut vraiment mettre un point d'exclamation sur la saison. Et pour tout dire, on réalise qu'après, parce qu'en fait, on est champion olympique, on passe en zone média. Ensuite, on doit se changer pour aller sur le podium. Ensuite, on retourne chez les médias. Ensuite, on retourne au village. On a d'autres médias. Ensuite, on fait un peu la fête. Le lendemain, on a fait des médias. Ensuite, on va à l'aéroport. Là, on atterrit. On est encore en train de faire des médias. Enfin, il y a un truc où on ne réalise pas. Et je pense que quand toute cette agitation va un peu retomber, là, on pourra se dire que ce qu'on a réalisé est grand.
Et un petit mot sur Erwan, quand même, qui a connu l'apothéose de sa carrière et qui a tout vécu dans cette équipe de France depuis près de 20 ans maintenant. Les très hauts, les très bas, et des grosses frustrations. Il finit avec une médaille d'or. C'était spécial pour vous, pour lui, mais pour vous aussi, je pense, de le faire partir comme ça.
Oui, bien sûr. Erwan Le Pichou, c'est le meilleur tireur par équipe de l'histoire du fleuret. On ne peut pas dire autre chose. Les autres nations le disent aussi. Enfin, c'est juste le meilleur tireur. Il a une longévité. Ça fait quasiment 20 ans que c'est Erwan qui a ce rôle de finisseur en équipe de France. Il a gagné, je crois, il a été 4 fois champion du monde. Je ne sais plus combien de fois, 5 fois champion d'Europe. Et manquait cette médaille d'or olympique. Et c'était sa dernière compétition. Et ouais, c'est sûr qu'on avait à cœur de ne pas le laisser partir comme ça. On avait à cœur de ne pas le laisser partir sur cette... C'est pas une frustration parce que ça reste du sport, mais sur ce titre qui lui manque par équipe. Et ouais, j'ai envie de dire que ça vient parachever une carrière par équipe que peu de gens pourront avoir, je pense.
Super, Enzo. Merci beaucoup pour ces témoignages, c'est précieux. Un petit dernier mot quand même, une anecdote ou quelque chose qui se passe dans le village, parce qu'on aime bien savoir un peu ce qu'il y a, les coulisses.
Non, c'est une bulle.
C'est ça. T'as vu des stars, dis-nous un peu.
Ah ouais, j'ai croisé Novak Djokovic, mais le pauvre, il ne peut pas faire 2 mètres à la cantine sans se faire embêter. Donc, moi, j'ai eu ma photo avec lui en 2012, donc cette fois-ci, je l'ai laissé tranquille. Mais non, moi, je suis un grand fan de basket et j'ai croisé Rui Hachimura, le japonais, qui était porte-drapeau. Du coup, il a pris une photo avec lui et aussi Alison Félix. Alison Félix, c'est une athlète que j'admire depuis ses premiers Jeux en 2004. Moi, je suis un fanat de sport. Enfin, je regardais les Jeux tout le temps. En fait, je n'ai jamais aussi peu suivi les Jeux que depuis que j'y participe parce qu'on est dans notre truc et on n'a pas forcément toutes les chaînes. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose au village. On a accès à tous les canaux qui diffusent les épreuves, mais il n'y a pas les commentaires. Et c'est vrai que sans les commentaires, ça enlève un peu de saveur. Et du coup, ouais, j'ai croisé Alison Félix à la cantine et ouais, je suis allé lui demander une photo. Elle est trop sympa. Elle a enlevé son masque. Elle m'a souhaité bonne chance pour mon épreuve. Enfin, ouais, c'est vraiment le type de champion qui représente à merveille les valeurs olympiques.
Super. Merci Enzo d'être passé dans l'heure olympique. Je sais que tu as une journée marathon encore. Tu vas fêter aussi au Trocadéro avec tous les autres athlètes. Profite de ces moments. Salut.
Merci beaucoup. Salut. Merci pour l'invitation.
L'affiche de mercredi, c'est évidemment le début du décathlon avec l'entrée en lice de Kevin Mayer. Alors, il faudra régler son réveil hein, parce qu'à 2h, il y a le 100 mètres, 2h55, le saut en longueur, 4h40, le lancer de poids, 11h30, le saut en hauteur et 14h30, le 400 mètres. 5 épreuves donc pour cette première journée du décathlon. Où il en est, Kevin Mayer ? On l'annonce grand favori. Toi, Stéphane, qui suis un petit peu, il l'est pas tout à fait.
J'ai envie de dire qu'il l'était jusqu'à la performance de Warner il y a quelques semaines aux sélections canadiennes qui a frôlé les 9000 points. Et ce qu'il faut préparer les gens pour ce décathlon, c'est que Kevin Mayer, à la fin de la première journée, ne sera probablement pas en tête et qu'il va commencer la deuxième journée avec Warner encore à ses côtés et que normalement, après le 110 mètres, il ne sera toujours pas en tête. Après le disque, il ne sera peut-être pas en tête et que seulement au niveau du saut à la perche, qui sera la 8e épreuve, Kevin Mayer devrait, si tout se passe bien, passer en tête et faire la différence. Donc Kevin Mayer, qui est ultra favori, lui aussi, il faut qu'il se prépare à être mené et pas à se désunir, à pas s'agacer de faire ce qu'il veut, parce qu'il y aura des points à grappiller partout dans cette compétition. Et il faut aussi préparer les gens à supporter Kevin, parce qu'ils vont être surpris de voir qu'il ne sera peut-être pas en tête, notamment à la fin de cette première journée.
Ouais, il faut quand même rappeler que Warner, il a des records sur 100 mètres hein, en 10-12. C'est absolument dingue hein, pour un décathlonien. Et 8,28 m à la longueur. Donc, effectivement, si les deux sont sur leur niveau de performance normal ou tous les deux leur niveau de performance maximale sur le 100 et la longueur, Kevin Mayer sera oui, forcément en retard. En fait, si on regarde les personal best des deux sur les 10 épreuves, les 4 dernières épreuves, Kevin Mayer a un record personnel qui est supérieur, voire très supérieur à celui de Warner. Et c'est vrai que, alors, sauf aléa, un zéro ou une blessure qui sont toujours possibles, Kevin Mayer le sait malheureusement très bien, le tournant et l'épreuve clé, ça pourrait effectivement être la perche où là, Kevin Mayer a un record qui est très largement supérieur à celui de Warner. C'est plutôt un des points faibles de Warner, un des points forts de Kevin Mayer. Sauf qu'on sait que Kevin Mayer a eu des grosses difficultés à la perche pendant 2 ans. Il a dit là qu'il les avait, de son point de vue, réglés. Il avait une espèce de... C'était vraiment psychologique, hein, il le dit. Hein, ce n'était pas technique, c'était psychologique. Et depuis le décathlon qu'il a fait au mois de décembre l'année dernière, juste avant Noël, à la Réunion, qu'il avait fait pour se qualifier pour les Jeux parce qu'il avait besoin des minima, où il avait fait 8553 points, ce qui est pas mal à mon avis quand même quand vous faites ça juste avant Noël, sans être à 100%. Là, plus les championnats d'Europe d'heptathlon en salle au mois de mars, je crois, en Pologne, il a dit que là, pour lui, il avait retrouvé ses sensations à la perche et également à la compétition organisée par Renaud Lavillenie, où il s'était aligné. Donc, s'il a vraiment mis de côté les problèmes qu'il a pu avoir depuis 2 ans sur ce qui était vraiment un de ses points forts, ça peut être un détournant de ce décathlon. Évidemment, à condition qu'à ce moment-là, il soit suffisamment au contact de Warner.
Là, ce qui est bien, c'est qu'on nous vend, surtout Stéphane, un super thriller. Ouais. Ça va être une course-poursuite jusqu'à la perche et peut-être même jusqu'à la fin. Oui, alors, toujours entre guillemets, c'est de la palissade, ce que je veux dire, mais c'est toujours le problème du décathlon, c'est comme on les voit rarement, c'est difficile de savoir dans quel état ils sont déjà physiquement, de voir ça. Niveau de performance, ce n'est pas comme un 100 mètres qu'on peut courir toutes les 2 semaines, 3 semaines, etc. Kevin Mayer, il reste sur championnat d'Europe difficile, championnat du monde difficile. Donc, en effet, on a envie de le voir reprendre sa course folle. On l'avait découvert à Rio en 2016, la médaille d'argent, le mondial derrière. Donc, on a vraiment envie de voir ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une grande inconnue au niveau de son état physique, de savoir où il en est. Et ça, les doutes seront peut-être pas levés. Je ne sais pas, Stéphane, à partir de quel moment demain, on peut se rendre compte d'où il en est. Est-ce que dès le 100 mètres, on a déjà une idée ou il faut aller sur d'autres épreuves plus…
Je pense qu'un point très important pour lui dans la journée de demain, c'est la longueur parce qu'il a fait un concours récemment et… Personnellement, à Monaco, je n'ai pas été convaincu par la performance et la manière. Et c'est vrai que c'est une discipline à un moment donné. Quand il a commencé à progresser en vitesse, eh bien, il ne passait pas le cut en longueur. Il restait toujours à son record qui commençait un petit peu à dater. Et c'est lors de son record du monde où il a mis enfin son niveau de longueur quasiment au niveau de ce qu'il était capable de faire en sprint. Et je pense que ce n'était peut-être pas qu'un problème de vitesse, parce que quand vous progressez en vitesse, on a l'impression qu'on va progresser partout. Mais il faut digérer cette vitesse, et notamment à la longueur. Ça fait quelques dizaines voire une petite centaine de kilos de supplémentaires de pression à l'impulsion. Et donc, musculairement, il faut pouvoir les digérer pour l'exploiter et la transformer en performance. Donc, je pense que dès la première journée, avec la longueur et aussi avec la hauteur, on saura où il en est, parce que la hauteur, c'est aussi une discipline clé pour lui. Il est bon, mais il a les chevilles fragiles. Et s'il est en douleur, s'il a des problèmes, eh bien, on sera très, très vite fixé.
Il l'a dit, hein, d'ailleurs, Kevin Mayer, avant le début des épreuves, qu'il voulait avant tout réaliser des grandes performances et de là découlerait un bon résultat. On sent qu'il a besoin de se rassurer en réalisant en construisant son décathlon pour essayer d'aller conquérir l'or.
Je pense qu'il dit ça parce que c'est un décathlonien et que vraiment, on parlait de la perche tout à l'heure, mais s'il y a bien une discipline où les athlètes sont d'abord face à eux-mêmes, ils sont contre eux-mêmes plus que contre les autres et on fait les comptes à la fin. Et Kevin Mayer, il a dit que voilà, lui, ce dont il rêvait vraiment, c'était de refaire un déca dans l'esprit de Talence, dans l'esprit de Rio, dans l'esprit de celui des championnats du monde 2017, c'est-à-dire où il sent qu'il peut s'exprimer pleinement sur chaque épreuve. Ce qu'il n'a pas pu faire dans les derniers grands championnats, et sa frustration, elle vient de là. Si demain et jeudi, il arrive à faire ça, qui fait 8900 points, 8950 ou même 9000, et que Warner le bat, je pense qu'il ne sera pas du tout déçu de ne pas être champion olympique. Mais il a besoin et envie de revivre un décathlon comme il n'en a plus vécu depuis très longtemps. Sa priorité, elle est vraiment là. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire par là.
Oui, je suis un petit peu d'accord parce qu'effectivement, quand on regarde son parcours, il est vice-champion olympique en 2016, il gagne champion du monde en 2017. En 2018, il se plante au championnat d'Europe et il bat le record du monde à Talence derrière. En 2019, championnat du monde, dans les grands championnats où il y a de l'enjeu, avec maintenant la pression d'être le meilleur au monde, le numéro un, eh bien, il n'a pas forcément toujours répondu présent. Il s'est qualifié facilement dans un décathlon à La Réunion en décembre, mais il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de pression, si ce n'est de terminer ce décat, parce qu'on savait très bien que à 70-75% avec le potentiel qu'il a, et c'est ce qu'il a montré, hein, 8005 pour lui, c'est ce qu'il peut faire encore une fois dans ce décathlon, et il ne sera pas loin de la troisième place avec cette paire, parce que derrière, il y a quand même assez de différence, il y a un trou. Les deux favoris, c'est Warner et Kevin. Et Kevin devra gérer cette pression d'un grand championnat et surtout de ne pas s'agacer de voir Warner, encore une fois, j'insiste là-dessus, devant lui.
Ça sera à suivre, je le disais, à partir de 2h sur les antennes d'Eurosport. Branchez vos réveils parce que c'est un des temps forts de cette quinzaine olympique. Merci messieurs d'avoir participé à l'heure olympique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner aussi, comme ça vous recevrez les épisodes tous les jours directement sur votre smartphone. Merci et on se retrouve demain. Salut.
Merci. Salut tout le monde.
Salut.
Merci Stéphane.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.